Germaine de Stael, Delphine, partie 6, lettres 9 à 11 comprises. Monsieur de Lébancé à Mademoiselle d'Albémar. Ce 7 août. Il est minuit. J'ai vu Léonce ce soir et je n'ai pu me résoudre à lui annoncer son malheur. Il lui reste encore une ressource s'il avait le courage de l'embrasser. J'essaierai de l'y préparer. Je verrai Madame d'Albémar dans peu d'heures et je ferai tout pour secourir ses infortunés. Jamais aucun des événements de ma propre vie n'a si vivement agité mon cœur. Depuis 7 heures du soir, je suis à Zurich. Léon s'y était arrivé le même jour. J'ai appris d'abord où il demeurait. Je l'ai prévenu par un mot de mon arrivée et j'ai été le voir un quart d'heure après. Il m'a bien reçu, mais avec une distraction très visible. J'ai supposé qu'une affaire personnelle m'avait obligé de venir à Zurich. Il ne m'écoutait pas. Enfin, je lui ai dit que j'avais reçu de vos nouvelles. Votre nom rappela son attention et il me dit qu'il partait à 4 heures du matin pour être à l'abbaye du Paradis au moment où l'on en ouvrait les portes. Il ajouta qu'il se croyait sûr d'y trouver Delphine. Je frémis de son projet et j'eus la présence d'esprit de lui dire sans hésiter que vous me mandiez par votre dernière lettre que Madame d'Albémar avait quitté ce couvent depuis 15 jours pour se retirer dans une campagne près de Francfort. Il tressaillit à ces mots et me dit « Encore 4 jours quand je comptais sur demain. » Et il porta sa main à son front avec douleur. « Si vous voulez, repris-je, je vous accompagnerai jusqu'à Francfort. » Je proposais ce voyage seulement dans l'intention de gagner encore 4 jours. « Vous êtes bon, me répondit-il. Peut-être accepterai-je votre offre. Nous en parlerons demain matin. » Je voulais insister et savoir quelque chose de plus sur ses projets. Mais il me regardait avec une sorte d'inquiétude qui me faisait mal. Et je résolus d'aller, d'abord, sans qu'il le sût, chez Madame d'Albémar, pour la prévenir à tout événement de l'arrivée de Léonce. Ce dessein arrêté, je me promis de laisser encore à mon malheureux ami ce jour de repos, et je lui proposai d'aller nous promener ensemble sur le bord du lac de Zurich. Il y consentit et ne me dit pas un mot pendant le chemin. Arrivé dans une allée de peupliers qui conduit au tombeau de Gessner, nous nous avançâmes jusque sur le rivage du lac. Léonce regarda tour à tour pendant quelque temps le ciel parsemé d'étoiles et les ondes qui les répétaient. « Mon ami, me dit-il alors, croyez-vous qu'enfin je doive être heureux ?» Et il s'arrêta pour attendre ma réponse. Je baissai la tête en signe de consentement, mais je ne pus articuler un seul mot. Il ne remarqua point ce qui se passait en moi, tant il était absorbé dans ses pensées. « Pourquoi ne le serais-je pas » continua-t-il. « Ceux qui ne se sont point occupés des idées religieuses, les croyez-vous l'objet du courroux de la divinité qu'ils auraient ignoré ? Il y a tant de mystères dans l'homme, hors de l'homme. Celui qui ne les a pas compris doit-il en être puni ? Sera-t-il condamné sur cette terre à ne jamais posséder ce qu'il aime ? S'il a respecté la morale, s'il a servi l'humanité, s'il n'a point flétri dans son âme l'enthousiasme de la vertu, n'a-t-il pas rendu un culte à ce qu'il y a de meilleur dans la nature ? Quelque nom qu'il ait attribué au principe de tout bien. Il est vrai, je l'avoue, j'ai attaché trop de prix à l'estime et à l'opinion publique. Mais qu'ai-je fait de condamnable pour les obtenir ? Ce que j'ai fait, s'écria-t-il, j'ai soupçonné Delphine. Je pouvais l'épouser et j'ai pris Mathilde pour femme. Mathilde que je n'aimais point, et que je n'ai pas su rendre aussi heureuse qu'elle le méritait. Mon cher Henri, reprit Léonce, d'une voix plus sombre, quel homme, en examinant sa vie, peut se trouver digne du bonheur? Et cependant, comment l'espérer si l'on n'en est pas digne ? Combien n'y a-t-il pas dans notre vie, lui dis-je, de bonnes et de nobles actions qui doivent vous inspirer de la confiance ? Oh, reprit-il, la source de ce qui est bien est-elle entièrement pure ? On veut les suffrages de ces hommes pour récompense d'une bonne conduite, et c'est ainsi que la vertu n'est jamais sans mélange. Mais dans le mal, il n'y a que du mal. Je repasse toute ma jeunesse dans mon souvenir, et j'y découvre des torts qui ne m'avaient point frappé. Serais-je heureux ? Serais-je heureux ? Est-il vrai que je vais revoir Delphine, m'unir à son sort pour toujours ? Je suis faible, bien faible. Il suffit du moindre présage, de votre silence quand je vous interroge, pour m'effrayer. Je voulus m'excuser alors. « Asseyons-nous, me dit-il. J'ai une palpitation de cœur très douloureuse. Parlez-moi, je ne peux plus parler. Mais ayez soin de ne me rien dire qui me trouble. Je vous en prie, donnez-moi du calme si vous le pouvez. Vous concevez, mademoiselle, ce que je devais souffrir. Je voyais mon malheureux ami comme un homme frappé de mort à son insu, et je n'osais ni le consoler ni l'inquiéter, car il aurait suffi d'un mot pour bouleverser son âme. Je voulus tâcher de découvrir sa disposition sur les idées qui m'occupaient, et je lui demandai si pour posséder Delphine, il s'exposerait cette fois, s'il le fallait, au blâme universel de la société. Pourquoi cette question ? S'écria-t-il en se levant avec colère. Madame d'Albémare n'est-elle pas le choix le plus honorable, le caractère le plus estimé ? Que savez-vous ? Que croyez-vous ? Je ne sais rien, interrompis-je, qui ne soit à la gloire de celle que vous aimez. Mais dans les moments les plus agités de la vie, j'aime qu'on soit capable de réfléchir et de raisonner. Je ne le suis pas, me répondit-il brusquement. Et il s'éloigna. Je le suivis, la bonté de son caractère le ramena. Il revint à moi et me dit en me tendant la main, « Vous qui saviez si bien trouver, il y a quelques mois, ce que j'avais besoin d'entendre, pourquoi, depuis que vous êtes ici, l'état de mon âme est-il beaucoup moins doux ?»« C'est que l'attente se prolonge, lui répondis-je. Partons demain pour Francfort. » « Eh bien oui, me répondit-il, je vous verrai demain. » Et il me quitta pour rentrer chez lui. Dans quelques heures, je serai à l'abbaye du Paradis. Madame d'Albémare soutiendra, je le crois, avec plus de force, la nouvelle que j'ai à lui annoncer. Elle n'a pas un instant cessé de souffrir. Mais ce qui me fait trembler pour Léonce, c'est qu'il a repris à l'espoir du bonheur, avec confiance et vivacité. Je vous apprendrai dans ma première lettre comment j'aurai trouvé Madame d'Albémare et quels conseils elle adoptera dans son malheur. Ah, je voudrais qu'elle se confiât entièrement à mes avis. Sa situation ne serait pas encore désespérée. Je ne vous dis pas, mademoiselle, combien vos peines m'affligent. Je fais mieux que vous plaindre. Je souffre autant que vous. Lettre 10. Monsieur de Lébancé à Mademoiselle d'Albémare. Près de l'abbaye du Paradis, ce ne fout. Tous mes efforts ont été vains. Ce que je craignais le plus est arrivé. Sans le souvenir de ma femme et de mon enfant, je ne sais si ma raison me suffirait pour supporter l'affreux spectacle de la douleur dont je suis témoin. Il paraît que Léonce ne s'était pas entièrement confié à ce que je lui avais dit du prétendu départ de Delphine pour Francfort, ou qu'il voulait au moins s'informer d'elle dans un lieu qu'elle avait habité longtemps. Hier matin, il partit sans m'en prévenir pour l'abbaye du Paradis. Je le sus un quart d'heure après, au moment où je montais moi-même à cheval pour m'y rendre. Je me flattais encore de le rejoindre avant qu'il fût arrivé. Et jamais, je crois, on a fait une course plus rapide que la mienne. Le soleil commençait à se lever. Je parcourais le plus beau pays du monde, sans distinguer un seul objet. J'aperçus enfin Léonce à un quart de lieue de l'abbaye, mais à 200 pas de moi. Je redoublai d'efforts pour l'atteindre, et comme s'il eût craint que je ne le joignisse, il hâtait tellement le pas de son cheval qu'il m'était impossible d'approcher de lui, même à la distance de la voix. Enfin, il descendit à la porte de l'abbaye et dit à l'instant même, ainsi que je l'ai su depuis, qu'il demandait à parler à une dame qui demeurait dans le couvent de la part de mademoiselle d'Albémare. Je ne sais par quel malheureux hasard la tourière qui se trouvait là se rappela que ce nom avait été souvent prononcé par Delphine. Elle monta pour la prévenir que quelqu'un voulait la voir de la part de mademoiselle d'Albémare. Et j'arrivai lorsqu'on disait à Léonce que la personne qu'il demandait était prête à le recevoir. Je voulus le retenir au moment où il montait les premières marches de l'escalier du couvent. « Au nom du ciel, m'écriai-je, écoutez-moi, Léonce, arrêtez !»« M'arrêter, dit-il en se tournant vers moi, qui, sur la terre, oserait me le proposer ?»« Daignez m'entendre, répétai-je, vous ne savez pas !»« Je sais que Delphine est ici, interrompit-il avec fureur, et que vous vouliez me le cacher. » C'en est trop. Ne prononcez pas un mot de plus. » Il ouvrit la porte en finissant ses dernières paroles. Il n'était plus temps de rien essayer. Le sort avait tout décidé. Comme Léon s'entrait dans le parloir, Delphine parut, revêtue de son voile noir, derrière la fatale grille. À ce spectacle, un tremblement affreux saisit Léonce. Il regardait tour à tour Delphine et moi avec des yeux dont l'expression appelait et repoussait la vérité presque en même temps. « Est-elle religieuse ? » s'écria-t-il. « L'est-elle ? » À ces accents, Delphine reconnut Léonce. Elle tendit les bras vers lui. Il s'élança vers la grille qu'il saisit, qu'il ébranla de ses deux mains, avec une contraction de nerfs impossible à voir sans frémir, et dit avec une voix dont les accents ne sortiront jamais de mon souvenir. « Mathilde est morte. Delphine, pouvez-vous être à moi ?»« Non, lui répondit-elle, mais je puis mourir. » Et elle tomba par terre, sans mouvement. Léonce la considéra quelque temps, avec un regard fixe et terrible. Puis, se retournant vers moi, il s'appuya sur mon bras et s'assit avec un calme apparent que démentait l'affreuse altération de son visage. Il se mit à me parler alors, mais il m'était impossible de le comprendre, car ses dents frappaient les unes contre les autres avec une grande violence, et ses idées se troublaient tellement qu'il n'y avait plus aucun sens dans ce qu'il disait. Delphine, revenant à elle, fit demander à l'abbesse la permission d'entrer dans la chambre extérieure. Madame de Ternant, effrayée de l'arrivée de son neveu, n'osa ni se montrer ni refuser ce que lui demandait Delphine. Mon malheureux ami n'entendait déjà ni ne voyait plus rien lorsqu'on ouvrit la grille à Delphine. Elle se précipita dans l'instant aux genoux de Léonce et tint ses mains glacées dans les siennes en lui prodiguant les noms les plus tendres. Léonce alors, sans revenir tout à fait à lui, reconnut cependant son amie, et, la prenant dans ses bras, il la pressa sur son cœur, avec un mouvement si passionné, des regards tellement enthousiastes, qu'involontairement je levai les mains au ciel pour le prier de les réunir tous les deux. Peut-être m'a-t-il exaucé. Léon, se serrant dans ses mains tremblantes, les mains tremblantes de Delphine, et déjà dans le délire de la fièvre qui ne l'a point quitté depuis, lui disait « D'où vient donc, mon ami, que tu m'apparais couverte de ce voile? Quel présage m'annonce cet habit lugubre? N'est-ce pas avec des parures de fête que notre hymen doit être célébré? Oh, dégage-toi de ces ombres noires qui t'environnent. Viens à moi vêtue de blanc, dans tout l'éclat de ta jeunesse et de ta beauté. Viens, l'épouse de mon cœur, toi sur qui je repose ma vie. Mais pourquoi pleures-tu sur mon sein? Tes larmes me brûlent. Quelle est la cause de ta douleur? N'es-tu pas à moi pour jamais, à moi, à moi? » Sa voix s'affaiblissait toujours plus. En répétant ces paroles déchirantes, il pencha sa tête sur mon épaule et perdit absolument connaissance. Delphine me reconnut alors et me dit « Vous le voyez, je lui donne la mort. Je ne sais quel être je suis. Je porte le malheur avec moi. Je ne fais rien que de funeste. Sauvez-le, sauvez-le. » « Écoutez-moi, lui dis-je, vos vœux ne sont point irrévocables. Ils peuvent être brisés, ils le seront. » Ces paroles la firent frissonner, mais elle les entendit sans en conserver le souvenir. Elle posa la tête défaillante de son amie sur son sein et m'envoya chercher du secours. Je revins avec deux tourières du couvent. Tous nos efforts pour rappeler Léonce à la vie furent d'abord vains. Delphine, dont l'effroi redoublait à chaque instant, pressant Léonce dans ses bras, cherchait à le soutenir, à le ranimer, et lui répétait, avec cet abandon de tendresse qui fait d'une femme un être céleste, un être qui ne s'exprime et ne respire que l'amour. « Mon ami, mon amant, ange de ma vie, ouvre les yeux. N'entends-tu donc plus cette voix d'amour qui t'appelle, cette voix de ta Delphine? Nous mourrons ensemble, mais reviens à toi pour me dire encore une fois que tu m'aimes. Ne sens-tu pas mon cœur sur ton cœur, ma main qui presse la tienne? Je ne sais ce que je suis, je ne sais quel lien m'enchaîne, mais mon âme est restée libre et je t'adore. L'excès du sentiment que j'éprouve n'aurait-il donc aucune puissance? La vie qui me dévore, ne puis-je la faire passer dans tes veines? Léonce, Léonce. » Il ouvrit les yeux à ces accents, mais il les referma bientôt après, repoussant de sa main Delphine même, comme s'il ne se trouvait bien que dans l'engourdissement de la mort. Je remarquai l'embarras des religieuses, témoins de cette scène, et je résolus de faire transporter Léonce dans une maison voisine du couvent où l'on pourrait le secourir. Delphine ne s'opposa point aux ordres que je donnais, et quand on emporta l'infortuné Léonce sans qu'il eût repris ses sens, elle se mit à genoux sur le seuil de la porte, le suivit de ses regards tant qu'elle put l'apercevoir, et baissant ensuite son voile, elle se releva et rentra dans son couvent. Depuis ce moment, je n'ai pas quitté Léonce. Il n'a pas cessé d'être en délire. Cependant, les médecins me donnent l'espoir de sa guérison. Je vous manderai dans peu de jours, mademoiselle, ce que je veux tenter pour nos malheureux amis. Il faut que je recueille mes pensées pour l'importante résolution que je dois leur proposer. En attendant, je leur prodiguerai tous les soins qui peuvent conserver leur vie. Ne vous affligez pas trop d'être loin d'eux. Daignez croire que mon amitié ne négligera rien pour les secourir. Lettre 11. Monsieur de Lébancé à Mademoiselle d'Albémar. Près l'abbaye du Paradis, ce 11 août 1792. Léonce ne peut pas survivre à son malheur, et je suis certain qu'il a résolu de terminer sa vie. Il m'a interrogé plusieurs fois sur le récit que Delphine m'a fait des événements qui l'ont amenée à se faire religieuse. Une circonstance se retrace sans cesse à lui. C'est la terrible crainte qu'a éprouvée Delphine de se voir perdue de réputation. Il sent que c'est surtout à cause de lui qu'elle n'a pu supporter l'idée d'être même injustement soupçonnée, et il se regarde comme l'auteur de son propre malheur. Sa fièvre a cessé, mais c'est parce qu'il est décidé qu'il est calme. Il m'a annoncé avec une sorte de solennité que dans 4 jours il voulait avoir un entretien seul avec Delphine. « Madame de Ternan, me dit-il, ne me le refusera pas après le mal qu'elle m'a fait. Elle me craint, elle redoute de me parler, mais elle n'osera pas s'exposer inconsidérément à m'irriter. Je veux revoir Delphine près de cette église où elle a permis que les restes de M. de Valorbe fussent déposés. » Je connais Léonce, son caractère, sa passion, sa douleur. Je ne sais ce que moi-même je trouverais à lui dire dans sa situation, pour l'engager à vivre, mais je sais mieux encore qu'il ne veut rien écouter. Delphine, n'en doutez pas, n'existera pas un jour après Léonce, et je laisserai périr ainsi ces deux nobles créatures. Non, que tous les préjugés de la terre s'arment contre moi, n'importe. Je suis sûre que je fais une bonne action en essayant de rendre à la vie deux êtres dignes du bonheur et de la vertu. Je dédaigne ceux qui me blâmeront. Ils ne m'atteindront pas dans l'asile de mon cœur où je suis content de moi. Ils n'ébranleront point cette parfaite conviction de l'esprit, qui est aussi une conscience pour l'homme éclairé. Vous saurez dans 2 jours, mademoiselle, l'issue de mon projet. J'espère que vous l'approuverez. Votre suffrage m'est nécessaire, et plus je sais m'affranchir des vaines clameurs, plus j'ai besoin de l'estime de mes amis.